Bienvenue sur eBook Studio 2026. Ce livre audio est rédigé par Georges Boubet. Nous vous présentons aujourd'hui Le Loup Détective.
Oubliez les contes sombres. Voici Lou, un détective au cœur tendre, dont l'arme secrète est une curiosité insatiable et un regard affûté pour les détails. Dans la forêt enchantée, de petits mystères s'accumulent, un objet disparu, un bruit étrange, une trace inconnue.
Attachez vos ceintures. L'aventure commence maintenant. Le Loup Détective, par Georges Boubet. Oubliez les contes sombres. Voici Lou, un détective au cœur tendre, dont l'arme secrète est une curiosité insatiable et un regard affûté pour les détails. Dans la forêt enchantée, de petits mystères s'accumulent. Un objet disparu, un bruit étrange, une trace inconnue. Lou ne court pas après les suspects. Il observe patiemment, écoute attentivement et sent chaque parfum. Chaque feuille, chaque brindille, chaque murmure du vent devient un indice précieux pour résoudre l'énigme. Avec lui, chaque enquête se transforme en une douce aventure où la patience, la logique et l'amitié triomphent. Votre enfant développera son sens de l'observation, son esprit critique et son empathie, tout en explorant la nature avec un héros attachant et bienveillant. Une lecture qui stimule l'imagination, encourage la réflexion calme et célèbre la beauté du monde. Offrez-lui une aventure inoubliable avec Lou, le détective qui voit au-delà des apparences. Chapitre 1. L'éveil du détective et le mystère du jardin. Le soleil filtrait à travers les feuilles, mais un détail inattendu brisait la quiétude matinale. Le pot de miel de Madame Gertrude avait disparu. Un matin pas comme les autres. La disparition du miel. Loupeau, un jeune loup au pelage gris doux, sentit d'abord une odeur inhabituelle. Pas celle de la rosée fraîche ou de la terre humide, mais une pointe de panique flottant dans l'air. Ses yeux vifs, toujours en éveil, balayèrent la clairière. Madame Gertrude la tortue, d'ordinaire si placide, agitait ses petites pattes avec une vivacité déconcertante. Sa carapace lustrée, oscillant comme une barque sur une mer agitée. Elle tournait en rond devant son tronc d'arbre creux, là où elle gardait ses trésors. « Mon miel, mon précieux miel !» s'écria-t-elle, sa voix habituellement posée, trahissant une détresse profonde. « Il n'est plus là !» Loupeau s'approcha, son instinct de curiosité piqué au vif. Le pot de miel de Madame Gertrude n'était pas un simple pot. C'était un chef-d'œuvre artisanal, sculpté dans une souche de bouleau par les frères Castor eux-mêmes, incrusté de baies rouges séchées et rempli du nectar le plus doux de la forêt. Sa disparition représentait plus qu'une simple perte. C'était un événement impensable dans une communauté où chacun respectait les biens de l'autre. Le jeune loup observa les alentours du tronc. L'herbe était piétinée de manière irrégulière. Quelques brins d'herbe plus foncés que les autres, comme écrasés. Une petite flaque de rosée s'était formée dans une empreinte de patte, mais elle paraissait trop grande pour être celle de Madame Gertrude. Loupeau fronça les sourcils. Un sentiment nouveau, un mélange d'excitation et de concentration s'éveillait en lui. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver un objet, mais de comprendre comment et pourquoi. « Calmez-vous, Madame Gertrude !» dit Loupeau d'une voix douce. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » La loupe de Loupeau, les premières traces au sol. Loupeau abaissa son museau vers le sol, ses sens en alerte. L'air vibrait encore de l'odeur sucrée du miel, mais elle se mêlait à une autre fragrance, plus âcre, celle de la terre fraîchement remuée. Près du tronc, l'empreinte de pattes qu'il avait remarquée se révélait plus distincte. Quatre doigts fins, une paume allongée. Ce n'était pas l'empreinte large et plate d'un blaireau, ni la marque délicate d'une souris. Cela ressemblait à celle d'un renard. Un frisson parcourut l'échine de Loupeau. Rémi le renard, avec ses facéties, venait souvent à l'esprit quand un objet disparaissait. Mais il jouait rarement avec le bien d'autrui. Il longea le périmètre du tronc, suivant les marques ténues. Une ligne, presque invisible, traçait un chemin dans la rosée. Comme si quelque chose de lourd avait été traîné. Le sol,
habituellement couvert de feuilles mortes et de mousse, montrait des signes de perturbation. Une petite pierre, d'ordinaire bien enfoncée, était retournée, révélant sa face humide. Quelques gouttes de miel, minuscules et collantes, scintillaient sur une feuille de chêne voisine. Lupo les renifla. L'odeur intense confirmait leur provenance. Le coupable avait laissé des miettes derrière lui. Plus loin, les traces se firent plus claires. Elles menaient vers l'ouest, en direction de la lisière de la forêt, où les arbres se faisaient plus denses. Mais un détail l'intrigua. À un endroit précis, les traces de pattes s'interrompaient brusquement, remplacées par une série de petits trous ronds et peu profonds. Comme si le coupable avait subitement changé de mode de déplacement, ou comme si quelqu'un d'autre était intervenu. Lupo resta un instant immobile, absorbant chaque détail. Chaque brin d'herbe, chaque grain de terre contenait une partie de l'histoire. Il sentait son esprit travailler, reliant les points, cherchant la logique derrière le chaos. La forêt, d'habitude si familière, se transformait en une immense page de livre. Chaque élément un mot, chaque trace une phrase. Il devait apprendre à lire. Madame Gertrude raconte, insista Lupo, sachant que les petits détails souvent révélaient le plus.
Était-ce léger ou plus lourd?
Plus lourd, je dirais. Comme un sac de feuilles qu'on traîne, mais plus doux. Pas un craquement de branches. Madame Gertrude inclina légèrement sa tête.
Et puis, ce matin, au lever du jour, quand j'ai voulu prendre ma tartine de miel, plus rien.
Lupo hocha la tête. L'heure du crime était établie. Entre le coucher du soleil et le lever du jour. Le bruit de froissement correspondait à la trace de traînée qu'il avait observée. Mais le coupable, le renard était une possibilité, mais le froissement lourd ne collait pas tout à fait à l'image d'un Rémy espiègle. Il manquait un élément. La mémoire de Madame Gertrude, bien que lente, était une mine d'informations. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel ces derniers jours? Un animal que vous ne voyez pas souvent? Un objet déplacé? La vieille tortue réfléchit longuement, ses yeux fixant le vide. « Ah !» s'exclama-t-elle soudain. « Il y a 2 jours, j'ai vu Rémy le renard rôder près du vieux chêne, là où les baies de sureau sont les plus mûres. Il semblait observer. Mais Rémy observe toujours quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle sourit faiblement. « Et hier matin, j'ai vu un drôle de petit caillou juste ici, devant mon tronc. Il n'y était pas la veille. Un caillou gris avec une petite tache blanche. » Lupo écouta attentivement, chaque mot une nouvelle pièce du puzzle. Rémy le renard, un caillou gris. Des éléments apparemment sans lien, mais dans une enquête, rien n'était jamais insignifiant. Il nota mentalement l'emplacement du vieux chêne et la description du caillou. L'art du témoignage ne consistait pas seulement à écouter, mais à poser les bonnes questions, celles qui débloquaient la mémoire et révélaient les indices cachés dans le quotidien. Barnabé l'ami fidèle. Chercher avec les yeux de l'autre. Alors que Lupo s'apprêtait à explorer la piste du vieux chêne, une secousse ébranla le sol. Barnabé le blaireau, son ami rondouillet, émergea d'un terrier fraîchement creusé, le museau couvert de terre et les yeux pétillants. Il tenait dans ses pattes un objet étrange, une sorte de petite branche tordue, couverte de boue et de quelques poils roux.
« Lupo, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama Barnabé. Sa voix résonnant d'enthousiasme.
Je creusais un nouveau raccourci vers la source, et cette chose était juste là, enfouie. Lupo examina la trouvaille. Ce n'était pas une branche ordinaire. L'extrémité était usée, polie, comme si elle avait été frottée contre quelque chose de dur, et les poils roux, ils semblaient correspondre à ceux d'un renard. Son regard se porta sur Barnabé. Le blaireau, avec sa maladresse légendaire, avait une capacité unique à dénicher des choses par pur hasard. Ses talents de fouisseur, souvent source de gags, devenaient soudainement précieux. Lupo réalisa l'importance de son ami. Chercher avec les yeux de l'autre, c'était multiplier les chances de trouver, d'élargir le champ d'observation. « Tu as fait une découverte importante, Barnabé, » dit Lupo, un sourire encourageant sur son museau. « Où exactement l'as-tu trouvé ?» Barnabé, fier de sa contribution, montra le terrier d'où il venait. Juste là, pas loin des grandes racines du hêtre, vers le sentier des écureuils. Lupo associa l'information. Le sentier des écureuils menait aussi vers l'ouest,
dans la même direction que les traces de pattes, la branche tordue, les poignes roux et le froissement lourd dont parlait Madame Gertrude. Une image commençait à se former dans son esprit. Et si le coupable avait utilisé cet objet pour transporter le pot de miel? Cela expliquerait les traces de traînée et le bruit. Et les poils de renard renforceraient la piste de Rémy. « Barnabé, tu es un excellent assistant », déclara Lupo, sa voix empreinte de sincérité. « Continue à chercher. Tout ce qui te semble étrange, tout ce qui n'est pas à sa place, apporte-le-moi. » Le blaireau hocha la tête, les yeux brillants. Il traça des lignes, écrivit des mots simples, dessina des croquis rudimentaires. Sur son carnet d'indices, il nota « Miel disparu, peau de Gertrude ». En dessous, il ajouta « Traces de pattes fines, quatre doigts, paume allongée. Renard, direction ouest. Goutte de miel sur feuille de chêne. Bruit de froissement lourd, témoignage Gertrude. Traces de petits trous ronds, puis pattes s'arrêtent. Rémy Renard, vu près du vieux chêne, il y a deux jours. Caillou gris avec taches blanches, témoignage Gertrude. Branche tordue avec poils roux, trouvée par Barnabé. Il relut ses notes. Les pistes pointaient toutes vers l'ouest, vers le territoire des renards. Rémy était la principale cible. Mais les petits trous ronds restaient une énigme. Et le caillou? Il semblait déplacé, mais son utilité dans l'enquête restait floue. Lupo sentait que la vérité était là, à portée de patte, cachée derrière les apparences. Il devait suivre ces pistes, les confronter et surtout ne rien négliger. Chaque détail, même le plus infime, pouvait être la clé. Il rongea précieusement son carnet d'écorce. L'enquête ne faisait que commencer, et la forêt gardait encore bien des secrets. Il se leva, les yeux rivés vers l'ouest, là où les ombres commençaient à s'allonger. Le mystère du miel n'était que le début. Les traces menaient loin, et Lupo savait qu'il devrait affiner sa vision pour distinguer la vérité des illusions, les indices pertinents des fausses pistes. Le sentier des écureuils, le vieux chêne. Il y avait encore tant à découvrir. Et peut-être, au-delà de ces pistes évidentes, se cachait un indice oublié. Chapitre 2. Sur la piste des indices oubliés. Sur la piste des indices oubliés. La trace s'enfonçait dans la forêt, serpentant entre les ronces et les rochers, guidant Lupo vers des recoins inattendus. La trace mystérieuse, plus loin que prévu. Lupo suivait l'empreinte collante avec une concentration absolue, son museau frôlant la terre humide. Chaque pas comptait. Le parfum sucré du miel, mêlé à une odeur de sève de pin, flottait encore faiblement, mais il se transformait, se diluait dans les senteurs plus âpres des sous-bois. Barnabé, son ami blaireau, trébuchait derrière lui, ses courtes pattes peinant à suivre le rythme. « On va où, Lupo ? On dirait que la piste s'amuse à nous faire faire le grand tour. » Il s'essuya le front avec une patte terreuse. « Justement, Barnabé, » répondit Lupo, ses yeux vifs balayant le sol. « Elle ne s'amuse pas. Elle nous mène. » Il pointa une branche brisée, fraîchement cassée, dont les fibres internes, encore claires, contrastaient avec l'écorce sombre. « Regarde. Ce n'est pas une simple trace de patte. C'est une marque de passage forcé. Quelque chose de lourd est passé par là. » Les traces, plus profondes par endroits, s'éloignaient du sentier habituel, traversant un fourré d'épines où peu d'animaux s'aventuraient volontairement. Le sol, d'abord meuble et boueux, devenait rocailleux, puis tapissé d'une épaisse couche de feuilles mortes. Sur ces dernières, la trace de miel devenait presque invisible, se fondant avec les teintes automnales. Lupo ralentit, son instinct le poussant à la prudence. Il remarqua des touffes d'herbe piétinées sur le côté, là où la trace principale s'estompait. Une erreur ou une tentative de dissimulation? Il s'accroupit, examinant attentivement. Un minuscule fragment de mousse verte, inhabituel pour cette zone de pin, adhérait à une pierre. Il le renifla, un soupçon d'humus et de résine. Barnabé, moins attentif à l'infiniment petit, s'arrêta brusquement. « Oh ! » s'écria-t-il, désignant une flaque d'eau un peu plus loin. « Ça, c'est une trace. » Une empreinte large et presque ronde se dessinait dans la boue.
Lupo s'approcha. L'empreinte était distincte, mais sa forme ne correspondait à aucune patte connue dans la forêt. Elle était trop régulière, trop parfaite.
« Une fausse piste, Barnabé, » expliqua Lupo.
« Celle-ci a été faite pour être vue. La vraie trace, celle du miel, est plus subtile. Elle ne cherche pas à s'afficher. » Il désigna des éclaboussures de boue sur une feuille de fougère voisine, beaucoup plus petite et qui suivait une direction différente. C'était là que la véritable piste continuait, presque imperceptible. Le sentier grimpait désormais une petite colline escarpée, bordée de rochers couverts de lichens. L'air se rafraîchissait et le chant des oiseaux s'estompait, remplacé par le murmure du vent dans les cimes. « Mais si la piste veut nous induire en erreur, » demanda Barnabé.
« Comment savoir laquelle est la bonne ?»
Lupo inspira profondément, en cherchant ce qui ne colle pas. La trace de miel, même diluée, garde une signature. Et le chemin emprunté n'est pas celui d'un animal qui se promène. C'est celui d'une fuite ou d'un transport. Il s'arrêta devant un rocher imposant, sa surface lisse et grise. Aucune trace visible. Mais sur le lichen verdâtre poussant à sa base, une petite rayure, comme celle laissée par un frottement, capta son attention. Juste là, la piste semblait disparaître. C'était un cul-de-sac, ou un appel à une aide plus éclairée. Chloé la chouette, les secrets de l'arbre ancien. Face à l'impasse du rocher, Lupo comprit qu'il devait chercher une perspective différente. Les détails au sol étaient précieux, mais l'ensemble du tableau lui échappait encore. Seule Chloé, du haut de son arbre millénaire, pouvait offrir cette vision. Il laissa Barnabé renifler le rocher, persuadé qu'il trouverait quelque chose d'important en creusant, et se dirigea vers le vieux chêne. L'arbre s'élevait majestueusement, ses branches noueuses abritant des générations d'oiseaux.
« Oui, quand quelque chose passe, » continua la chouette, son regard se perdant dans le lointain, « il laisse une trace. Mais quand quelque chose ne passe pas là où il devrait, cela aussi est une information. » Les chemins habituels, les bruits coutumiers, si un silence remplace un chant, ou si une allée est vide quand elle devrait être fréquentée, n'est-ce pas un indice ? Elle marqua une pause. Et les secrets de l'arbre ancien ne sont pas que dans ses racines. Ils sont dans ce qu'il a vu jour après jour.
Les habitudes, Lupo.
Les habitudes de la forêt.
Chloé ne donna aucune direction, aucun nom. Elle se contenta de planter des graines de réflexion dans l'esprit de Lupo, l'incitant à élargir son champ d'observation au-delà du seul sol. Il devait désormais regarder ce qui manquait, ce qui était décalé, ce qui ne correspondait pas au schéma établi. Le pot de miel n'était pas le seul élément disparu. L'ordre habituel de la forêt avait également été perturbé. Chloé cligna lentement des yeux. La vérité est rarement là où on l'attend, mais toujours là où on la cherche avec un esprit ouvert.
Rémi le renard, une farce ou un indice ?
Lupo retourna vers Barnabé, l'esprit en effervescence. L'idée des marques de l'absence le travaillait. Mais avant qu'il n'ait pu partager ses nouvelles réflexions, un cri strident retentit.
« Au secours ! Un monstre !»
Barnabé, blotti derrière le rocher, tremblait de tout son corps.
Ses yeux ronds fixaient une ombre mouvante dans les puissants voisins. Lupo s'approcha prudemment. L'ombre grandissait, se déformait, ressemblant à une créature gigantesque au bois immense.
Un rire familier éclata. Rémi le renard, sa queue rousse balançant avec espièglerie, sortit des buissons, tenant deux grandes branches entrelacées au-dessus de sa tête.
Il avait habilement utilisé la lumière du soleil pour projeter une ombre effrayante.
Barnabé laissa échapper un soupir de soulagement, puis un grognement agacé.
« Rémi, encore tes farces !» s'exclama Lupo.
Bien que le soulagement d'avoir démasqué le monstre l'ait fait sourire un instant.
« Tu nous as fait peur !»
Rémi secoua la tête, amusé.
« Vous êtes si facile à piéger. Je vous ai vu suivre cette piste.
Une piste de miel, n'est-ce pas ?
J'ai cru que vous aimeriez un petit défi supplémentaire. »
Il désigna du museau une série d'empreintes de pattes de blaireau, étrangement grandes et profondes, menant directement vers un nid de guêpes vide.
« C'est toi qui as fait ça ?» demanda Lupo, un soupçon d'irritation dans la voix.
« Tu as dévié notre enquête avec une fausse piste de blaireau géant ?»
« Eh bien, » répondit Rémi, faisant semblant de réfléchir, « je me suis dit qu'un blaireau maladroit comme Barnabé pourrait laisser des traces encore plus grosses s'il était très pressé ou s'il portait quelque chose.
Qui irait chercher du miel près d'un nid de guêpes ?
C'est un test, Lupo, pour voir si tu es un vrai détective ou juste un loup curieux.
Barnabé grogna. Un test qui nous fait perdre notre temps.
Lupo, cependant, regarda Rémi d'un œil nouveau. Le renard était farceur, oui, mais sa farce contenait un grain de vérité.
Tu as raison sur un point, Rémi. Qui irait chercher du miel près d'un nid de guêpes?
Cette question, posée par le renard espiègle, résonnait étrangement avec les paroles de Chloé sur les marques de l'absence et les habitudes de la forêt. Le nid de guêpes était un endroit à éviter.
Donc, si la trace menait vers un endroit dangereux, c'était soit une erreur, soit une diversion volontaire.
Mais la farce de Rémi avait aussi une autre implication. Il avait parlé de Barnabé, de son éventuelle maladresse et de la possibilité de traces plus grandes s'il cortait une charge. Et si la vraie trace du miel n'était pas faite par un animal, mais par un objet porté?
Lupo sentit une nouvelle piste s'ouvrir. Le piège de Rémi, bien que frustrant, avait involontairement révélé une nouvelle hypothèse.
Le renard, voyant Lupo pensif, s'éloigna en glissant un « psh » espiègle.
Il regarda autour du rocher, se souvenant des habitudes de la forêt. Quel animal aurait des raisons de traîner quelque chose de lourd? Et pourquoi passer par un endroit aussi difficile?
Barnabé, dit Lupo, tu te souviens de l'odeur de sève de pin sur la trace et de cette mousse?
Barnabé, qui avait fini de renifler le rocher sans succès, leva la tête.
Oui, mais ça ne nous dit rien. La forêt sent la sève de pin et la mousse pousse partout.
Passe cette mousse, corrigea Lupo,
et pas à cet endroit.
Et la sève de pin, elle était fraîche, comme si l'arbre venait d'être coupé ou écorcé.
Il repensa aux frères Castor, Brick et Brock, toujours affairés à leur construction.
Ils coupaient beaucoup d'arbres, transportaient des rondins, laissaient des copeaux et de la sève partout.
Mais les castors ne volaient pas de miel. Ou du moins, il n'y avait aucune raison qu'ils le fassent.
Lupo décida d'élargir son cercle de recherche, non plus en suivant une ligne droite, mais en observant les zones environnantes du rocher.
Il cherchait des signes d'activité, des perturbations. C'est alors qu'il remarqua une fine couche de poussière de bois sur le bord d'une feuille de hêtre.
À peine visible, elle aurait pu être ignorée. Mais Lupo l'avait vue.
La poussière n'était pas naturelle ici. Elle était trop fine pour être de la terre, trop claire pour être de la sciure classique. Il la renifla.
Une odeur distincte de bois frais, mais aussi quelque chose d'autre, une légère note sucrée, presque imperceptible.
Le miel?
Non, pas exactement.
Plutôt une odeur de résine sucrée, comme celle des bourgeons de peupliers.
Il suivit cette poussière de bois, qui formait une piste presque fantôme sur le sol forestier. Elle menait vers une petite crique, à l'écart du ruisseau principal. Là, l'eau était calme, presque stagnante. Au bord, une série d'empreintes plus claires et plus fines que les précédentes apparurent. Elles étaient espacées, et la manière dont le sable avait été déplacé suggérait une patte légère, mais avec une force d'appui ponctuelle. Et au milieu de ces empreintes, une autre trace, une longue rainure peu profonde dans le sable, comme si un objet long et fin avait été traîné. Ce n'était pas la trace du pot de miel, c'était autre chose, quelque chose qui avait été utilisé pour transporter le pot. Et cette trace, elle, était plus récente que la première. Elle était la clé pour comprendre comment le miel avait été déplacé.
Lupo sentit son cœur battre plus fort. Il était sur la bonne voie. Les empreintes discrètes, les signes de l'absence, les habitudes perturbées, tout commençait à prendre sens.
La patience était en effet la clé, comme Chloé l'avait suggéré. Le coupable n'avait pas laissé une unique piste facile à suivre, mais une myriade de petits indices, dispersés et contradictoires en apparence,
attendant d'être assemblés par un esprit observateur.
Le piège des évidences, ne jamais se fâcher.
Lupo suivit la nouvelle piste, celle de la poussière de bois et de la rainure dans le sable, avec une détermination renouvelée. Elle l'éloignait du rocher, contournant le ruisseau, pour s'enfoncer dans une clairière moins dense, parsemée de jeunes bouleaux.
L'odeur de résine sucrée devenait plus forte.
Barnabé, encouragé par l'enthousiasme de Lupo, trottinait à ses côtés, ses yeux cherchant fébrilement le moindre indice.
« Regarde, Lupo !» s'écria-t-il soudain, désignant un petit monticule de terre fraîchement remué.
« Quelqu'un a creusé ici. »
Lupo s'approcha. Le monticule était évident, trop évident.
Il y avait des marques de griffes, mais elles étaient larges, comme si elles avaient été faites avec une force excessive. Et au milieu de la terre, un petit morceau de tissu rouge, vif, presque neuf. Une nouvelle fausse piste, pensa Lupo. La couleur flashy du tissu, la terre fraîchement retournée, c'était un appel à l'attention. Mais pourquoi? Et qui?
C'est encore Rémi, grogna Barnabé. Il veut nous faire chercher un trésor imaginaire.
Lupo sec.
Chapitre 3. L'énigme des objets cachés et la collaboration.
Un morceau de bois, curieusement gravé, gisait près de la rivière. Un indice discret, mais potentiellement crucial pour l'enquête de Lupo.
Le morceau de bois gravé, un message caché?
Le courant de la rivière berçait doucement le morceau de bois.
Lupo, son museau frôlant l'eau, l'extirpa avec délicatesse.
L'objet de la taille de sa patte présentait des entailles nettes, des motifs géométriques qui n'avaient rien de naturel. Pas les éclats de bois grossiers découverts plus tôt, mais une œuvre intentionnelle, presque une signature.
« Qu'est-ce que c'est que ça, Lupo ?»
s'étonna Barnabé, penché au-dessus de son épaule.
Sa curiosité, un instant, surpassait sa tendance à trébucher sur ses propres pattes.
« On dirait des petites zigzags. Est-ce que quelqu'un aurait fait un dessin dessus ?»
Lupo observa les gravures. Elles formaient une sorte de spirale incomplète, se terminant par une encoche profonde.
Le bois sentait le pain frais, un parfum qui ne correspondait pas aux essences du sous-bois environnant.
Il le fit tourner entre ses griffes, ses yeux vifs scrutant chaque détail.
Cette pièce, à première vue anodine, résonnait étrangement avec la trace collante et la plume bleue.
Il sentait que le dénouement approchait, que tous les éléments convergeaient vers une révélation.
« Ce n'est pas un simple dessin, Barnabé. C'est trop précis.
Et ce bois, il n'est pas d'ici. Quelqu'un l'a apporté. Ou l'a fabriqué. »
Lupo fronça les sourcils. La forêt regorgeait de ressources, mais ce type de pain était rare dans cette zone.
Qui aurait transporté un tel morceau de bois et pourquoi l'aurait-il gravé de cette manière si particulière?
Le mystère s'épaississait, mais cette complexité stimulait son esprit, le poussant à chercher des réponses au-delà de l'évidence.
Les frères Castor, des bâtisseurs aux mains pleines.
La digue des frères Castor, Brick et Brock, se dressait au loin, une prouesse d'ingénierie naturelle.
Un balai incessant de rondins, de branches et de boue.
Leur atelier, fait de bois entrelacé, résonnait des coups de queue et des bruits de grignotage.
Lupo et Barnabé s'approchèrent, le morceau de pain gravé, fermement tenu par le jeune loup.
Brick, le plus grand des deux, sortit la tête de son refuge, une branche de saule à la gueule.
« Tiens, Lupo, Barnabé, quelle bonne surprise! Venez vous admirer notre dernière création ?»
Une rampe de lancement pour les petits poissons migrateurs.
Il désigna fièrement une structure complexe.
Brock, plus petit et toujours concentré, continuait à empiler des brindilles avec une dextérité étonnante.
Lupo brandit le morceau de bois.
Brick, Brock, j'ai trouvé ceci près de la rivière.
Ce sont vos gravures? Ce pain est-il de votre stock?
Brick prit l'objet, l'examina attentivement avec ses petites pattes.
Des gravures? Non. Ce n'est pas notre style.
Nous, on préfère les entailles nettes, pour l'assemblage.
Et ce pain? Il le renifla.
C'est du pain des montagnes, très solide.
Mais nous n'en avons pas utilisé depuis l'hiver dernier.
Pour une réparation de la digue, je crois.
Brock, qui avait cessé son ouvrage, ajouta d'une voix plus calme.
Effectivement. Et ces marques, elles ressemblent à des marques de dents, mais pas les nôtres.
Celles-ci sont plus petites, plus pointues.
Il désigna une des encoches.
On dirait qu'elles ont été faites avec un outil, ou par un animal qui ronge de façon très méthodique.
Lupo sentit une étincelle.
Des marques de dents?
Mais pas celles des castors.
Qui d'autre dans la forêt rongeait le bois avec une telle précision?
Il écarta l'idée d'un Rémi farceur.
Le renard n'avait jamais montré un tel talent pour la menuiserie.
Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel ces derniers jours?
Quelqu'un transportant du pain des montagnes?
« Ou un objet de cette forme ?» demanda Lupo, son regard allant de Brick à Brock.
Brick réfléchit, tapant sa queue contre l'eau.
« Eh bien, il y a eu ce petit mouvement. La semaine dernière, un chari. »
Le plan de Lupo reliait les points du mystère.
Lupo s'installa sous un grand chêne, le morceau de bois gravé à ses côtés.
Barnabé, à ses côtés, essayait de faire rouler une pomme avec son nez, sans grand succès.
Le loup ferma les yeux, révisant l'ensemble des éléments.
le pot de miel de Madame Gertrude avait disparu. Une trace collante, une empreinte de patte inconnue, des éclats de bois près du jardin, une plume bleue, et maintenant, ce morceau de pain gravé avec des marques de dents non castor et le témoignage d'un chariot miniature en amont. « Il faut tout organiser, Barnabé, » déclara Lupo, ouvrant les yeux.
« Imagine que chaque indice est une perle. Elles sont éparpillées, mais elles appartiennent toutes au même collier. » Il traça des formes dans la terre avec sa patte. « Le miel est le début. Qui veut du miel ? Beaucoup d'animaux. Mais qui le transporterait avec un chariot ? Et qui laisserait des éclats de bois et une plume ?»
Il commença à relier les faits. Le pain des montagnes et les marques de dents spécifiques pointaient vers un animal capable de travailler le bois, mais différemment des castors. Le chariot suggérait une méthode de transport pour quelque chose de lourd ou de volumineux, ce qui correspondait à un pot de miel. La plume bleue restait le point le plus énigmatique. Elle ne semblait liée à aucun des autres indices. Elle flottait, seule, dans ce tableau complexe. À moins que... Et si la plume bleue n'était pas un indice de l'auteur, mais un indice du chemin, murmura Lupo, une nouvelle idée prenant forme, ou de ce qui s'est passé pendant le transport. Il se rappela l'emplacement de la plume, près des ronces, là où la trace de miel avait bifurqué. Une branche l'avait peut-être arrachée à un animal qui passait, ou qui s'était accroché. Mais quel animal ? Il visualisa la scène, le pot de miel, le chariot, l'animal transporteur. Un incident avec les ronces, la plume, la trace de miel, les éclats de bois, le morceau de pain gravé. Tout devait avoir un sens, une logique implacable. Il lui fallait maintenant formuler des hypothèses solides, écarter les impossibilités et se concentrer sur la seule explication qui engloberait tous les faits. L'hypothèse du loup imaginait les scénarios.
Lupo commença à échafauder des scénarios. Premier scénario, Rémi le renard a volé le miel. Il secoua la tête.
Non, Rémi est farceur, mais il ne construit pas de chariot et il n'a pas de dents qui gravent le pain. Et ses farces sont généralement moins élaborées, plus directes. Il raya cette option. Il avait appris à ne pas se laisser tromper par les apparences ni par les habitudes.
Deuxième scénario, un animal inconnu, très astucieux, a tout planifié. C'était possible, mais moins satisfaisant. Les indices étaient trop spécifiques pour une vague inconnue. Ils pointaient vers une espèce particulière,
une façon de faire, qui d'autre que les castors maniaient le bois avec autant de précision. Mais les castors avaient démenti, et les marques de dents étaient différentes. Il se concentra sur les marques sur le pain. Des dents petites, pointues, précises. Qui dans la forêt possédait de telles dents et la capacité de graver le bois ? Un écureuil ? Non. Trop petit pour transporter un pot de miel. Une souris ? Absolument pas. Un animal plus grand, mais aux outils dentaires fins. Et la plume bleue ? Elle revenait toujours, comme un détail récalcitrant. Elle n'était pas celle d'une chouette, ni d'un corbeau. Elle était d'un bleu profond, presque irisé.
Lupo se rappela une observation de Chloé, faite il y a quelques saisons, sur les oiseaux nicheurs rares. Elle avait mentionné un jais bleu, un grand oiseau qui aimait les objets brillants et qui avait l'habitude de stocker des provisions. Un jais bleu qui aurait pu se blesser avec les ronces, laissant une plume. Mais un jais ne déplace pas un pot de miel, et il ne ronge pas le bois de cette manière.
Le loup se sentit un instant perdu dans cette forêt d'informations. Il avait des faits, mais la suite.
Lupo lui expliqua tout.
Le miel, la trace, l'empreinte, les éclats, la plume, le pain gravé, le chariot des castors.
Il lui montra le morceau de bois. Ces marques, elles sont faites avec précision. Et la plume, elle me trouble.
Chloé prit le morceau de bois dans ses serres. Elle le tourna, l'observa longuement.
Des marques de dents, oui, mais pas une simple morsure. C'est un travail.
Et ce chariot, elle réfléchit.
As-tu considéré qui dans cette forêt a le talent de construire, le besoin de transporter, et une façon très particulière de marquer ces objets ?
Elle ne donna pas de nom, juste une direction.
Barnabé, qui s'était mis à creuser un petit trou par habitude, poussa un cri étouffé.
« Lupo, regarde, il avait déterré un petit objet,
à peine visible sous la mousse. C'était une minuscule cuillère en bois, sculptée avec soin, et sur son manche, les mêmes motifs en spirale que sur le morceau de pain, ainsi que de minuscules marques de dents. La cuillère était propre, mais une légère odeur de miel persistait. Lupo prit la cuillère. C'était la pièce manquante. La plume bleue, les marques de dents, le chariot, le pain des montagnes. Tout s'éclaira d'un coup. Les petites marques sur la cuillère, la plume, le chariot. Il n'y avait qu'un seul habitant de la forêt qui correspondait à tous ces indices. Un animal que personne n'aurait jamais soupçonné de voler quoi que ce soit, mais qui, en y repensant, avait un lien très particulier avec le miel et les outils. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Il avait compris. « Je sais qui a pris le miel », annonça Lupo, ses yeux brillants. « Et je crois savoir pourquoi. Mais il faut le prouver. » Il regarda Chloé, puis Barnabé, reconnaissant. Sans leur aide, sans leurs observations uniques, il n'aurait jamais pu relier les points. La solution était là, claire et inattendue. Reste à confronter le coupable et à comprendre la véritable motivation derrière cette énigme sucrée. Chapitre 4. La grande révélation et le secret de l'observation. Le dernier indice, un simple éclat de lumière, révéla la vérité. Une vérité bien plus amusante et inattendue que tous les mystères imaginés. Le dernier indice, un détail éclairant. Lupo se tenait près du chêne ancestral, les yeux rivés sur le soleil matinal. Un rayon perçait les feuilles, frappant quelque chose de minuscule, à peine visible, enfoui dans l'herbe haute. C'était un éclat, une étincelle fugace, comme un fragment de miroir. Il s'agenouilla, écartant les brins d'herbe avec sa patte. « Qu'est-ce que tu as trouvé, Lupo ?» Barnabé, toujours prompt à la curiosité, s'approcha, son museau touchant presque celui du loup. Le blaireau, avec sa maladresse habituelle, trébucha sur une racine, envoyant un petit nuage de terre. Mais son regard, lui, était fixé sur l'objet. Lupo dégagea délicatement l'éclat. Ce n'était pas un miroir. C'était un petit morceau de métal brillant, poli, de la taille d'une griffe. Une sensation de déjà-vu traversa Lupo. Chloé avait mentionné un objet brillant vu près du jardin de Madame Gertrude. Cet éclat était-il un fragment de cet objet ou l'objet lui-même en miniature? Il le compara au morceau de bois gravé qu'il avait trouvé près de la rivière. Le bois, identifié par Bric et Broc comme une pièce de moulinet, avait une petite fente. L'éclat métallique, étrangement, possédait une forme qui pouvait s'y insérer. Une pièce manquante. Lupo sentit l'excitation monter. Toutes les pièces du puzzle, éparpillées à travers la forêt, commençaient à s'assembler dans son esprit. Le miel disparu, les traces, les farces de Rémy, le moulinet, et maintenant cet éclat. Il y avait un lien, un fil invisible. « J'ai besoin de réunir tout le monde », déclara Lupo, sa voix ferme. Le mystère de Madame Gertrude est sur le point d'être résolu. L'explication de Lupo. Le mystère élucidé. Sous le regard attentif de Chloé, perché sur une branche, Lupo rassembla ses amis. Madame Gertrude, assise avec sa patience légendaire, attendait, son pot de miel vide à ses côtés. Barnabé gigotait, Bric et Broc ajustaient leur casque de chantier miniature. Rémy, l'air mutin, jouait avec une brindille, évitant le regard de Lupo. Tous étaient là, impatients d'entendre la conclusion de cette étrange affaire. Le matin où le pot de miel a disparu, commença Lupo, sa voix calme mais assurée, j'ai senti une odeur de sève de pain mêlée au miel. J'ai aussi trouvé des empreintes, celles de Rémy. Le renard leva les yeux, un léger rougissement effleurant son museau. Ensuite, Barnabé a trouvé une fausse pomme de pain à miel, une de tes farces, Rémy. Barnabé hocha la tête avec enthousiasme. Elle sentait le miel, mais elle n'était pas collante. Puis j'ai trouvé ce morceau de bois, continua Lupo, montrant la pièce gravée. Bric et Broc ont confirmé que c'était une partie de moulinet.
Et les deux castors firent un signe de tête solennel.
Ce moulinet n'était pas fait par eux. Et Chloé a vu Rémy près du jardin de Madame Gertrude avec un objet brillant. Chloé, du haut de sa branche, émit un doux ululement d'approbation. Il brillait comme le soleil sur l'eau. Et enfin, dit Lupo, levant le petit éclat métallique,
J'ai trouvé ceci. Ils s'insèrent parfaitement dans la fente du moulinet. Il fit la démonstration et l'éclat s'emboîta, transformant le morceau de bois en un mini moulinet complet.
Rémi, tu avais une idée. Une idée qui nécessitait du miel, des matériaux et un peu de secret.
Rémi, pris au dépourvu, laissa tomber sa brindille. Son sourire farceur avait disparu, remplacé par une expression plus sérieuse.
« Je voulais faire une surprise, » admit-il, sa voix à peine audible. « Un cadeau pour Madame Gertrude. »
Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Madame Gertrude cligna lentement des yeux, son calme imperturbable vacillant pour la première fois.
Lupo invita Rémi à poursuivre. Le renard, encouragé par le regard bienveillant du loup, prit une profonde inspiration.
J'avais vu Madame Gertrude essayer d'atte. Je voulais lui permettre d'attraper les gouttes de miel qui perlent parfois des fleurs sauvages, expliqua Rémi,
sans avoir à se déplacer. Le pot de miel, je l'ai emprunté pour tester le système, pour voir si le panier pouvait retenir le miel.
Il pointa une petite tache collante sur le fond du panier.
Et la sève de pain, c'était pour coller les pièces du moulinet. Je n'avais pas de colle.
Barnabé éclata de rire. « Une machine à miel, c'est génial !»
Madame Gertrude, qui avait écouté attentivement, posa une patte ridée sur le mécanisme.
« C'est très attentionné, Rémi. »
Son sourire se fit plus doux. « Mais pourquoi ne pas m'avoir demandé ?»«
Je voulais que ce soit une surprise parfaite, » répondit Rémi, les oreilles basses. « Et je savais que si je demandais, vous auriez dit que c'était trop de travail. » Ou que je devrais faire attention.
Il regarda Lupo.
Et puis, je me suis un peu laissé emporter avec les farces. La pomme de pin, je voulais juste déhoter un peu.
Tes farces ont causé beaucoup de confusion, dit Lupo, sans réprimande, mais avec une clarté que Rémi comprit.
Et le secret a fait croire à un vol.
Je suis désolé, dit Rémi, le regard sincère. Je n'avais pas imaginé que ça irait si loin. Je voulais juste faire plaisir.
Madame Gertrude, avec une lenteur majestueuse, se rapprocha de Rémi.
« Je comprends, mon cher, et je te pardonne. C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait fait. Une machine à miel. »
Elle tendit une feuille fraîche à Rémi.
« Pour ton travail. »
Leçon de détective, observer et comprendre le mystère, était résolu non par un acte malveillant, mais par une intention généreuse, maladroitement exécutée.
Lupo sentit une profonde satisfaction.
Il avait suivi chaque indice, écouté chaque témoin et avait permis à la vérité de se révéler. La solution n'était pas compliquée, mais elle exigeait une observation minutieuse et une capacité à relier des faits apparemment sans rapport.
« Chaque détail compte », déclara Lupo, s'adressant à ses amis. « Le parfum, l'empreinte, le mot d'un ami, un objet trouvé.
Rien n'est anodin. » Il regarda Barnabé.
« Ta découverte de la fausse pomme de pin, Barnabé, a montré que Rémi était impliqué. »
Le blaireau gonfla sa poitrine, fier.
« Chloé, tes observations précises sur l'objet brillant ont orienté nos recherches. »
La chouette cligna des yeux, satisfaite de son rôle.
« Et Bric et Broc, votre connaissance des matériaux a identifié le moulinet. »
Les castors échangèrent un sourire complice.
« Et toi, Lupo, » dit Madame Gertrude, « tu as eu la patience de tout assembler. Tu n'as pas jugé trop vite. » Tu as cherché à comprendre.
Lupo réalisa l'importance de son propre rôle. Il avait appris à ne pas se fier aux apparences, à ne pas accuser avant d'avoir toutes les preuves.
L'observation ne se limitait pas à voir.
Elle consistait à interpréter, à déduire et surtout à chercher la vérité avec bienveillance.
Les mystères de la forêt n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient être. Souvent, derrière une énigme se cachait une intention simple, parfois maladroite, mais rarement méchante.
Rémi, de son côté, avait compris la portée de ses actions. Une farce innocente pouvait causer de l'inquiétude.
Un secret, même bien intentionné, pouvait semer la discorde. Il promit de toujours parler de ses idées, même les plus farfelues, avant de les mettre en œuvre.
Ses talents d'inventeur et de bricoleur, qu'il cachait par timidité, pouvaient être une aide précieuse pour tous.
De nouveaux amis, de nouvelles aventures, le soleil de midi réchauffait la clairière, baignant la scène d'une lumière dorée.
Le pot de miel de Madame Gertrude, rempli à nouveau par les abeilles de la forêt reconnaissante,
fut placée à côté de la machine à miel de Rémi.
Dorénavant, Madame Gertrude pourrait savourer le nectar des fleurs sans effort, grâce à l'ingéniosité du renard. Les amis partagèrent un déjeuner joyeux, le miel coulant à flots sur des baies sauvages.
Lupo observa ses amis.
Des défis passionnants, des rencontres inattendues et des leçons précieuses l'attendaient. Le monde était rempli d'énigmes et il était prêt à les explorer, un indice à la fois, avec son cœur ouvert et ses yeux vifs, toujours prêt pour la prochaine aventure. La forêt avait encore tant à lui apprendre et lui tant à découvrir.